Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Nous allons lire la parole de Dieu pour la prédication. Mais avant cette lecture, nous allons méditer ce qu'elle dit d'elle-même quant à son autorité. Et ce sera le verset qui nous est proposé pour la semaine, à méditer, à apprendre par cœur si possible. Vous le connaissez sûrement déjà par cœur assez bien. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16 et 17. Voilà, donc pensez-y dans cette semaine, ce verset important qui nous assure que l'Écriture a toute autorité pour nos vies. Et nous allons continuer notre lecture dans 1 Pierre, au tout début de cette épître, la première de Pierre, les deux premiers versets. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà, ce sera le texte de base de la prédication, mais un texte complémentaire dans Jean, chapitre 21, 3 versets, les versets 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Le contexte, c'est Jésus ressuscité qui est avec ses disciples en Galilée. Et puis les disciples sont allés pêcher toute la nuit, bredouille, et ils voient sur le rivage quelqu'un qui leur dit de jeter le filet à droite. Et le filet est plein de poissons, alors Jean se rend compte que c'est le Seigneur Jésus, et Pierre, entendant cela, les précède à la nage jusqu'au rivage pour retrouver le Seigneur. Et le Seigneur leur donne à manger du poisson et du pain. Et voici verset 15, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Voilà, et je laisse la place à Olivier. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu jusqu'à nous et de nous prêcher la parole de Dieu.
Un questionnaire, si vous voulez, si ça vous aide à suivre la prédication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par le questionnaire? Vous pouvez lever la main et quelqu'un vous l'apportera. Oui, Darius, il est juste derrière, alors tu verras à gauche, là, normalement, ça y est. Personne d'autre, c'est bon? Ok, c'est bien. Je l'invite à ouvrir votre Bible sur ce texte de 1 Pierre, ce matin. Je ne suis que le remplaçant du titulaire, en fait. Hein, donc, je remplace Joël, notre fils, ce matin. Et j'ai décidé alors de commencer un petit peu plus tôt que prévu cette série sur 1 Pierre. J'avais prévu de commencer 1 Pierre début octobre, quand je serai avec vous pour ces 3 mois sabbatiques de Tim et Marlise. Et donc, j'avance simplement le démarrage de cette série sur 1 Pierre ce matin. C'est la saison des vacances. Et quand vous partez en vacances, est-ce qu'il vous arrive de consulter, avant de partir, un atlas routier ou un guide de voyage pour savoir où vous allez, et par où est-ce qu'il faut passer, et où est-ce que vous risquez d'avoir peut-être des surprises, des bouchons, ou je ne sais pas quoi. Oui, on fait tous. Enfin, je ne sais pas, non, il y en a qui ne le font pas. Mais moi, je le fais. En général, j'essaye quand même d'anticiper un peu. Et en fait, est-ce qu'il vous arrive aussi de vous poser la question par rapport à la vie chrétienne? Vous dire, est-ce qu'il y a un guide de voyage? Est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'il y a un atlas qui me permet de savoir par avance qu'est-ce que va être la vie chrétienne? Et si vous êtes chrétien, peut-être vous vous posez encore la question, est-ce qu'il y a un manuel qui nous décrit un peu la vie chrétienne? Et peut-être que vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes là ce matin et vous dites, moi j'aimerais bien savoir à quoi m'attendre avant de commencer à vivre la vie chrétienne. Eh bien, je crois personnellement que les 2 épîtres de Pierre sont en fait une sorte de mode d'emploi ou un guide de voyage pour comprendre ce que va être ou ce qu'est la vie chrétienne. Et j'espère qu'au fur et à mesure qu'on va parcourir cette lettre pendant l'automne, vous allez découvrir un petit peu ce qu'est la vie chrétienne. Ce que doit être la vie chrétienne. Aujourd'hui, on va commencer simplement en découvrant l'auteur du guide de voyage. C'est important de savoir qui il est, s'il est fiable ou bien pas. Et puis les destinataires de ce guide de voyage. D'abord, donc ce sera les 2 grandes parties de cette prédication. D'abord, l'auteur. Verset 1, ça commence par « Pierre, apôtre de Jésus-Christ ». C'est difficile d'être plus clair que ça, d'entrée. Pourtant, il y en a qui va douter que ce soit vraiment l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre, mais c'est tellement évident. Pierre est celui qui a écrit le guide de voyage. Maintenant, que savez-vous de lui? Pierre était un témoin oculaire, c'est-à-dire qui avait vu Jésus, qui avait entendu Jésus, qui avait vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi de ministère. Et en plus, c'était même un témoin oculaire privilégié. Parce que parmi les 12 apôtres, Jésus en a pris 3, toujours les 3 mêmes, pour des situations particulières. Pierre, Jacques et Jean. C'était eux qui étaient là quand il y a eu la résurrection de Jaïrus. C'était eux qui étaient là sur la montagne de la Transfiguration. C'était eux qui étaient là à Gethsémané, tout près de Jésus, quand il agonisait. Donc, on a ici un témoin oculaire privilégié. On sait que c'était un disciple au caractère impulsif, qui, ça se voit souvent, mais qui, suite à ces trois reniements, a été brisé. Au moment où Jésus lui a posé trois fois la question, « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» comme on l'a lu dans Jean chapitre 21. Et trois fois, Jésus lui a confié la mission de paître ses brebis, c'est-à-dire de prendre soin, un soin particulier de son Église. Et en découvrant son nom au début de cette lettre et de la suivante, on comprend que Pierre, en fait, a vraiment eu à cœur de cette mission que le Seigneur lui avait confiée, de prendre soin de son Église. Parce qu'il se préoccupe de l'Église. Et en écrivant ces deux lettres, il les écrit comme un guide de voyage parce qu'il a un saint souci, on pourrait dire, que l'Église de Jésus-Christ qui va arriver dans les siècles à venir est un guide qui l'avertit de ce qu'est la vie chrétienne. Pierre prend la peine de nous informer de son but dans la deuxième épître, au chapitre 1er, versets 12 à 15. 1 Pierre 2, regardez, 2 Pierre 1, versets 12 à 15, regardez avec moi, c'est pas loin, c'est 4 pages plus loin dans votre Bible, 4 ou 5 pages. Il dit, versets 12 à 15, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Il dit, voilà pourquoi je vous écris. Je vous écris pour que vous souveniez toujours des choses dont vous avez besoin pour vivre une vie, la vie chrétienne dans ce monde. Et un peu plus loin, dans 2 Pierre 3, 1, il dit, « Voilà déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, 1 Pierre, 2 Pierre, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Donc, vous voyez, le but de Pierre, c'est que l'Église soit équipée pour vivre comme une Église dans toutes les générations, même après la mort de l'apôtre. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut être sûr de la fiabilité de ce guide de voyage? C'est parce que Pierre se présente ici comme un apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela souligne? Ça souligne qu'il était l'un des 12 choisis par le Seigneur et équipés par le Saint-Esprit pour écrire le Nouveau Testament une fois que le Seigneur serait remonté au ciel. Parce que Jésus a dit concernant ses apôtres, ou à ses apôtres, dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai fait. » Et deux chapitres plus loin, 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Donc, vous voyez, l'Esprit Saint a eu un rôle particulier envers les apôtres pour les qualifier pour écrire les lettres qu'ils ont écrites. Donc Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, prend sa tâche d'apôtre envoyé par le Seigneur très au sérieux. Et que désire-t-il pour ses lecteurs? Fin du verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que son désir, c'est que ses lecteurs approfondissent toujours plus leur connaissance du don gratuit de Dieu en Christ pour leur salut, ce qu'on appelle la grâce, et que cette grâce, en fait, leur accorde la paix, une vie paisible, quelles que soient les circonstances qu'ils auront à affronter. Et je suis sûr que vous avez déjà découvert dans votre vie que notre paix ne dépend pas des circonstances que nous traversons, mais qu'elle dépend de ce que nous avons compris de l'œuvre du Christ pour nous et en nous. Vous voyez, parfois les circonstances peuvent être extrêmement agitées, mais si on est paisible et on sait qu'on a été réconcilié avec Dieu par Christ, qu'on est dans la main de ce Dieu souverain, ok, on est comme une coquille de noix sur une mer agitée, mais une coquille de noix attachée au port, amarrée au port. Ça bouge, ça tangue, mais avec une certitude et une paix qui demeurent. Parce qu'on est convaincu de ce que Christ a fait pour nous. Et si Pierre a cette préoccupation d'écrire ainsi à ses auteurs, à ses lecteurs, c'est parce qu'il semble que ce soit un peu le début d'une persécution grandissante dans l'Empire. Et alors, Pierre veut rassurer les croyants. Quand Pierre écrit, on est aux alentours de l'an 64 de notre ère. Si vous avez étudié un peu l'histoire romaine, vous savez que c'est Néron qui était l'empereur romain, un des empereurs extrêmement cruels à l'égard des chrétiens. Pierre était à Rome, très probablement, au moment où il écrit cette lettre. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'au chapitre 5, il dit, verset 13, « L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils, etc. » Et puis Babylone, à l'époque, c'était une ruine. La ville n'existait plus. Donc il ne pouvait pas être à Babylone littéralement. Mais on sait que Babylone, en particulier dans l'Apocalypse aussi, était employée pour parler de la ville de Rome, où on retrouvait un peu tous les péchés, tous les travers qui avaient existé dans la ville de Babylone à l'époque. Donc, vous voyez, Pierre est à Rome, il voit la persécution qui commence, il pense à l'Église chrétienne et il dit « il faut que j'écrive à l'Église ». Pour qu'elle ait un guide de voyage, qu'elle ne soit pas surprise si la persécution arrive, qu'elle sache comment se comporter dans ce genre de situation. Et on arrive maintenant au destinataire. Et ce sera un peu plus long. Là, j'ai trois sous-points concernant les destinataires. Tout d'abord, on va parler de leur situation. On va relire les deux versets, en fait. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Quelle était leur situation? si vous regardez la carte que j'ai mise sur le questionnaire, mais si vous n'avez pas le questionnaire, vous avez une carte sans doute à la fin de votre Bible, et si vous regardez la carte à la fin de votre Bible, vous vous rendez compte que les régions mentionnées ici, le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, se trouvent au nord de ce qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure. Ce qui correspond au nord de la Turquie actuelle. Et que savons-nous de l'annonce de l'Évangile dans ces régions au 1er siècle ? Ce qu'on sait, c'est que Paul n'y est jamais allé. Paul n'a jamais visité ces régions. Dans ses voyages missionnaires, il s'est limité à ce qu'on appelle le sud de l'Asie mineure. Et que lorsqu'il a tenté de s'y rendre, parce qu'il a voulu y aller, il en a été empêché par le diable. Acte 16, 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Comment ? On ne sait pas. Est-ce que l'Esprit était là ? Il n'y a pas d'indication. Mais Paul voulait aller dans ces régions annoncer l'Évangile ? Impossible. Il n'a pas pu y aller. À deux reprises, il a essayé. Alors, comment est-ce que l'Évangile a pénétré dans ces régions ? Il semble que ce soit grâce aux Juifs qui habitaient ces régions et qui étaient à Jérusalem lors de la Pentecôte. Et là, à la Pentecôte, ils ont entendu dans leur propre langue locale parler des merveilles du Christ. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? C'est parce que plusieurs des langues mentionnées ici sont mentionnées dans Actes chapitre 2, versets 8 et 9. Et comment entendons-nous chacun de notre Et comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? C'était la question des gens qui étaient là. Partes, Mèdes, Élamites, ceux de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Donc, vous voyez, sans doute que dans un premier temps, l'Évangile est arrivé dans ces régions-là par des Juifs qui étaient à Jérusalem au moment de la Pentecôte, qui se sont convertis et qui sont retournés dans les régions où ils vivaient, où ils avaient été dispersés. Parce qu'il y avait beaucoup de Juifs à l'époque qui avaient été dispersés pour toutes sortes de raisons, mais aussi à cause de la persécution. Et on les appelait la diaspora. Un mot qu'on retrouve ici, dans la dispersion, dans la diaspora. Pourtant, quand on considère l'ensemble de cette lettre, on se rend compte que les destinataires ne se limitent pas à quelques Juifs éparpillés. Parce qu'à plusieurs reprises, l'auteur s'adresse aussi à des non-juifs, à ses lecteurs, comme des non-juifs. Regardez au chapitre 2, verset 10. Il dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple » On ne peut pas dire ça des juifs, c'est que des juifs, ils étaient un peuple. « Vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu » Au chapitre 4, verset 3. Quand il dit « C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivronnerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. » Donc c'est assez clair, vous voyez, qu'il s'adresse à des juifs qui étaient devenus chrétiens à la Pentecôte, mais leur témoignage avait produit des conversions parmi les païens qui était aussi venu à Christ. Donc, il s'adresse à des juifs et à des païens. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut dire à ces païens qui sont des étrangers dans la dispersion ? Parce qu'ils n'étaient pas étrangers du tout, ils avaient toujours habité là. Mais c'est à cause de ce que Dieu a fait lorsqu'il les a sauvés. Parce que lorsque Dieu nous sauve, il nous transporte du royaume des ténèbres de ce monde et il nous amène dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 12 et 13. « Rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Philippiens 3, 20. « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » D'où nous attendons comme, aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, il peut le réécrire comme à des immigrants et des étrangers, parce que lorsqu'on devient chrétien, on change de citoyenneté. On devient des citoyens du ciel et donc des immigrants sur cette terre. Et Paul va nous montrer dans cette lettre que cette nouvelle citoyenneté doit avoir une incidence sur le rapport que nous entretenons avec ce monde. Et c'est bien passager. Alors maintenant, en quoi tout cela nous concerne-t-il? Puisque nous n'habitons ni le pont, il y en a qui habitent les ponts, mais c'est autre chose, le pont, ni la Galatie, ni la Cappadoce. Et la plupart d'entre nous ne sont pas, à part quelques Ukrainiens ici, mais autrement, la plupart d'entre nous ne sont pas des immigrants dans ce monde, mais des bons Neuchâtelois pour certains d'entre vous. En quoi ça nous concerne? C'est que nous aussi, quand Dieu nous a sauvés, il a fait de nous des citoyens du ciel. Le ciel est notre patrie. Le ciel est le but de notre voyage. Et si nos regards sont fixés sur le ciel, alors cela doit se voir dans notre manière de vivre sur la terre. Dans notre rapport au bien de ce monde, dans nos choix. Parce qu'on va tous tout quitter un jour, nus et les poches vides, pour aller dans la présence de Dieu, n'est-ce pas ? Dans notre patrie. En sachant cela, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous faut chercher la cité à venir. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alors, est-ce que ça devrait nous inquiéter de savoir que nous sommes des immigrants dans ce monde? Souvent, les immigrants, les migrants, comme on les appelle, sont inquiets, n'est-ce pas? Où est-ce que je vais dormir ce soir? Qu'est-ce qui va m'arriver? En France, ils veulent tous aller en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, mais ils traversent la France pour aller en Angleterre. Et ils ont une seule préoccupation, l'Angleterre. Hein? Et puis, tant qu'ils n'y sont pas, ils sont inquiets. Mais est-ce que ça doit nous inquiéter, nous, de savoir que nous sommes des migrants dans ce monde? Nous sommes des étrangers? Non. Pourquoi? Mais parce que nous sommes en sécurité. C'est le deuxième sous-point. On a vu leur situation, maintenant leur sécurité. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. Aux élus qui sont. Voilà des mots qui dérangent, n'est-ce pas? Bon nombre de chrétiens évangéliques ne les aiment pas. Et ils ont tendance à les tordre. Mais pourtant, ce n'est pas des mots difficiles à comprendre. Mais surtout en Suisse, où on vote régulièrement pour nos différents parlements. Qui sont les élus du canton de Neuchâtel? Ce sont ceux qui ont été choisis par la population. Choisis parmi d'autres, n'est-ce pas? Qui, bien qu'ils se soient aussi présentés aux élections, n'ont pas été élus, parce qu'ils n'ont pas été choisis. Ainsi, élu veut tout simplement dire choisis parmi d'autres. Et la différence entre les élus du canton de Neuchâtel et les élus de Dieu, c'est que vous avez choisi les élus du canton de Neuchâtel en fonction de leurs compétences, en tout cas j'espère, en fonction de leurs compétences ou de vos affinités politiques peut-être. Alors que les élus, l'élection des chrétiens par Dieu est une élection de grâce. C'est-à-dire une élection qui repose sur le Dieu trinitaire et non sur nos mérites. Et c'est ce que Pierre met en lumière ici lorsqu'il parle de la préscience du Père, de la sanctification de l'Esprit et de l'aspersion du sang de Jésus. Des expressions, vous voyez, qui se réfèrent aux trois personnes de la Trinité. Parce que dans l'élection des croyants et dans le salut, dans votre salut, si vous êtes chrétien, les trois personnes de la Trinité ont été à l'œuvre et sont à l'œuvre. Pour que vous puissiez être sauvés, il fallait que le Père agisse, il fallait que l'Esprit agisse, il fallait que le Fils agisse. Comment ? On va le voir en reprenant ces trois expressions. Tout d'abord, il dit « la préscience de Dieu le Père ». À quoi cette expression fait-elle référence ? Elle fait référence à la connaissance éternelle de Dieu qui a établi son plan de toute éternité. La Tob a traduit par « le dessein de Dieu ». La Bible en français courant a traduit par « conformément au plan établi d'avance ». Ainsi, vous voyez, cette expression de la préscience de Dieu est là pour nous faire comprendre que le choix de Dieu ne repose pas sur nos mérites, nos compétences, mais sur la grâce. Pourquoi ? Parce que Dieu nous avait choisis avant même que le monde existe. Avant même que nous existions et que nous ayons pu faire quoi que ce soit dans sa direction. C'est ce que Paul souligne aussi dans 2 Timothée 1,9. « N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. » Écoutez, « non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Il n'y a pas plus clair que ça. Avant les temps éternels, avant qu'on existe, Dieu nous a choisis selon son propre dessein et non à cause de nos œuvres. Ainsi, dans l'élection, le Père est celui qui, dans un élan de grâce inimaginable, incompréhensible, nous a choisi ses élus dans l'éternité passée. Ça, c'était le rôle du Père. Mais il n'est pas le seul. L'Esprit est aussi à l'œuvre, par la sanctification de l'Esprit. Le mot « sanctifié » veut littéralement dire « mis à part pour ». C'est là le sens de ce mot dans l'Ancien Testament. Il est utilisé pour les sacrificateurs, pour les ustensiles dans le tabernacle, dans le temple. Ils étaient retirés de leur usage normal pour être utilisés dans le service de Dieu. Et c'est exactement ce que fait l'Esprit-Saint lorsqu'il sanctifie ce que le Père a choisi, ses élus. Quelle a été sa première œuvre dans votre vie chrétienne ? C'est qu'il vous a régénéré. C'est-à-dire, il vous a donné une nature nouvelle, avec une nouvelle orientation de vie, qui vous permettent ensuite de voir en Christ le Sauveur, de voir votre misère et votre besoin de Sauveur et croire en lui. Ainsi, le rôle de l'Esprit dans l'élection est de transformer notre être pour que nous puissions faire des choix nouveaux et en particulier discerner en Jésus le Sauveur et le Seigneur dont nous avons besoin. Parce que par nature, nous étions spirituellement morts incapables de placer notre confiance en Christ tant que Dieu ne nous a pas ouvert les yeux pour que nous puissions le faire. Et si un jour vous avez cru en Christ, c'est grâce à la sanctification de l'Esprit-Saint. Et non grâce à vos capacités, vos mérites, ou le fait d'être un tout petit peu plus illuminé que les autres. C'est l'Esprit-Saint qui vous a ouvert les yeux. C'est l'œuvre de l'Esprit qui vous a régénéré. Mais il ne pouvait pas vous sauver dans un sens. S'il vous ouvre les yeux, c'est pour que vous voyez l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Oui. Le Père est celui qui a élu, le Fils est celui qui régénère pour... L'Esprit, heureusement que j'ai ma femme. L'Esprit est celui qui régénère pour que le Fils, que nous puissions voir dans le Fils, le Sauveur dont nous avons besoin. L'aspersion du sang de Jésus-Christ. À quoi cette aspersion fait-elle référence? Sans doute à la pratique qui avait lieu dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur sortait après avoir accompli le sacrifice, il trempait de l'hysope dans le sang et puis il aspergeait le peuple comme ça. Donc, si vous aviez été dans l'Ancien Testament, là, et puis que j'avais été sacrificateur, ce qui n'est pas le cas, vous auriez eu des gouttes de sang qui vous tombaient dessus, là, comme ça. C'est pas très, un peu lugubre, mais c'est comme ça. C'était comme ça. L'aspersion du sang, il aspergeait tout le monde avec le sang. Pourquoi? Mais pour comprendre que ce sacrifice qui venait d'être offert avait un impact sur moi. Il touchait ce sang, il me touchait moi. Et c'est comme ça, en fait, que dans un sens, il fallait qu'un lien soit fait entre le sacrifice offert et mon besoin d'être pardonné. Et l'aspersion du sang fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Parce que c'est par la croix que Jésus a opéré le salut des élus. Le salut de tous ceux que le Père lui a donné. Écoutez ce qu'il dit, Jean 10, 11. « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 17, 6. Maintenant. C'est la prière sacerdotale. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils l'ont reçue. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, ou par contre, lui, le fils de perdition, s'est perdu, afin que l'Écriture soit accomplie. » Éphésiens 5, 25-26. « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifié. » Alors, est-ce que vous comprenez maintenant, j'insiste un peu là-dessus, mais parce que c'est tellement, tellement bafoué ou mal compris aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la sécurité qui se trouve dans cette réalité de l'élection? C'est seulement le fait de savoir que le Père, le Fils, l'Esprit ont été à l'œuvre pour nous sauver. C'est un plan qui date de toute éternité et qui repose pas sur ma petite décision qui change d'un jour à l'autre, mais sur la volonté souveraine de Dieu que la sécurité se trouve. C'est une sécurité totale parce qu'elle ne repose pas sur mes performances, pas même sur mon engagement ou sur mes choix, qui sont tellement changeants d'un jour à l'autre, et même dans la même journée des fois, mais elle repose sur le Dieu trinitaire qui est intervenu en notre faveur, dans notre vie, par trois actes irrévocables. Celui du Père, celui du Fils, celui de l'Esprit. Dans l'éternité passée, le Père nous a aimés, et nous a choisis. mystère insondable. À Golgotha, le Fils nous a aimés et il est mort pour nous. Grâce extraordinaire. Dans notre vie, l'Esprit Saint nous a aimés et il a transformé notre cœur. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Ainsi, vous voyez, même si votre pèlerinage s'annonce périlleux et douloureux, parce que vous êtes un immigrant et que Pierre va devoir vous le montrer, que le pèlerinage du chrétien n'est pas facile, qu'il va devoir même exhorter, corriger, reprendre ses pèlerins, notre destinée n'en demeure pas moins sûre, parce qu'elle repose sur Dieu et pas sur nous. Cela dit, il y a un troisième sous-point, et j'arrive gentiment au bout, hein, persévérez avec moi. Il y a un troisième sous-point qu'il ne faut pas oublier dans cette description des destinataires de cette lettre. On a vu leur situation, leur sécurité, maintenant leur soumission. Parce que Pierre nous apprend que les chrétiens sont élus par le Dieu trinitaire dans un but précis. Lequel ? Pour l'obéissance. L'obéissance à qui ? À Dieu, bien sûr. Ainsi, Dieu nous a sauvés pour que nous vivions une vie nouvelle. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on continue à vivre comme avant. Il nous a sauvés pour que nous vivions une vie nouvelle en accord avec ses commandements, en accord avec sa volonté. Une vie qui se distingue du monde duquel on a été tiré. Une vie qui trouve son origine et sa force en Dieu, dans l'élection, dans la grâce que Dieu a manifestée envers nous. En fait, on peut faire un parallèle entre le peuple d'Israël et l'Église du Nouveau Testament. Parce qu'Israël avait été élu, aussi dans l'Ancienne Alliance, pour être un peuple mis à part d'entre les autres nations, afin d'obéir à Dieu et de servir au rayonnement de sa gloire dans ce monde. Et que lui est-il arrivé ? Il a échoué. Parce que malgré ses nombreux engagements répétés, malgré tous les prophètes que Dieu lui a envoyés pour le reprendre, l'exhorter, il n'a pas obéi comme il aurait dû obéir. Et que s'est-il passé? Dieu a envoyé son Fils, Jésus, comme nouvel Israël, comme véritable Israël, comme vraie descendance d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait ? En plus de porter notre condamnation à la croix, il a aussi obéi parfaitement à notre place, à toute la loi de Dieu. Il a fait ce qu'Israël avait été incapable de faire, il a fait ce que nous sommes incapables de faire, il l'a fait pour nous. Et maintenant, quelle est notre mission, nous qui avons placé notre confiance en Christ ? Ce n'est pas d'essayer d'être parfait comme Jésus a été parfait, parce que lui seul est parfait. Mais c'est de nous reposer sur lui, sachant qu'il a parfaitement accompli ces choses pour nous, et de désirer vivre en nouveauté de vie pour lui ressembler. Vous voyez ? Pas pour nous attirer la faveur de Dieu, mais parce que nous l'avons. La motivation est complètement différente. Parce que Dieu nous a tant aimés, parce que Jésus a été un modèle extraordinaire, nous avons envie de lui ressembler. Et c'est ce que ce guide de voyage va nous apprendre à faire, en fait. Et on pourrait presque dire que ces deux premiers versets fonctionnent un peu comme une table des matières qui nous montre les deux accents dans lesquels ce livre va se développer. Il y a un accent sur la sécurité du chrétien en Dieu, et puis un accent sur le besoin de l'obéissance à Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Mais pour le moment, je ne veux pas aller plus loin, mais je ne peux pas m'arrêter sans m'adresser à vous qui n'êtes peut-être pas encore chrétien ce matin. Il y en a que je ne connais pas, je ne sais pas où vous en êtes. Il est possible que cette doctrine de l'élection vous trouble, vous démotive. Vous dites que puisque tout dépend de Dieu, j'ai qu'à attendre. Mais ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous enseigne à de nombreuses reprises que si vous voyez en Christ le Sauveur, il ne faut pas attendre. Elle nous enseigne, elle vous enseigne à venir à Christ. Elle nous enseigne, à nous prédicateurs, à appeler, à vous appeler, à venir à Christ, à vous repentir de vos péchés, à placer votre confiance en lui. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu agit dans votre vie, lorsqu'il vous régénère, c'est à cela qu'il va vous conduire. Si aujourd'hui vous voyez votre péché, si aujourd'hui vous voyez combien Christ est le sauveur dont vous avez besoin, n'attendez pas. C'est que l'Esprit est en train d'agir dans votre cœur. Jetez-vous dans les bras du Seigneur, venez à lui, parce qu'il est le sauveur dont nous avons tous besoin. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.